Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur 48FM pour Théma, une émission ce mois-ci consacrée à la prévention des inondations en Lozère. Pour parler de ce sujet avec moi autour de cette table, Jatte Bréchignac, vous êtes chargée de mission inondation pour le syndicat mixte du bassin versant Tarn-Amont et animatrice du programme d'action de prévention des inondations, le PAPI, le PAPI. Bonjour à vous.
Bonjour.
Devant vous, également présent, Marc Chevrier, directeur adjoint de la DDT, la Direction départementale des territoires. Bonjour, monsieur Chevrier.
Bonjour à toutes et tous.
Et on ne pouvait pas faire une émission sur ce thème sans un élu local concerné par cette discussion. Et donc présent avec nous, Gérard Pedrini, maire de la commune d'Ispagnac. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Et enfin, pour m'accompagner, Ludovic Terol, journaliste à 48FM, pour compléter le casting. Bonjour Ludovic.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, pour rappeler, comme rappelé tout au début, aujourd'hui, c'est une heure de débat et de discussion sur la politique de prévention des crues et inondations en Lozère. La Lozère, un département dont sa géographie et son histoire ne peuvent pas être dissociées de ses cours d'eau. Ce n'est pas un hasard si, lors de la Révolution, la Lozère a failli s'appeler le département des sources. Et si encore aujourd'hui, l'un des surnoms de la Lozère est le château d'eau de la France, avec parfois d'une vallée à une autre, un cours d'eau partant vers le versant atlantique et l'autre vers le versant méditerranéen. L'eau, élément constitutif, de la Lozère, est haute et aussi essentielle que dangereuse. Sans remonter jusqu'à la crue du Lot, sûrement dans 1994, en novembre dernier, des précipitations importantes ont produit des dégâts sur l'est du département, avec des caves inondées, des routes détruites et même un train déraillé. Alors, dès l'Antiquité, les humains ont toujours su le risque que portait le fait de vivre au bord de l'eau. Mais ce n'est que depuis les années 80 et 90 que de véritables stratégies publiques en France sont mises en place en matière de prévention des risques naturels. Bref, assez parlé, place maintenant aux invités. Et je vais commencer par vous, Marc Chevrier, avec une question assez simple. Quelle définition et quelles actions mettez-vous derrière les termes « prévention des risques crues et inondations » ?
Alors, effectivement, de quoi parle-t-on quand on parle de prévention des risques ? Et peut-être avant cela, redonner des définitions, alors sans vouloir faire trop de définitions sur ce qu'est un risque, finalement. Un risque, c'est la conjonction entre un aléa, donc un aléa naturel, le débordement d'un cours d'eau en l'espèce, et des enjeux. Quand on parle d'enjeux, on parle effectivement d'habitation, des enjeux économiques aussi avec des entreprises. Et c'est cette conjonction des deux qui nous donne la notion de risque. Donc voilà ce qu'est un risque. S'agissant de la prévention des risques, je dirais en matière de politique publique, en matière de mesures que les acteurs publics, l'État, collectivités, syndicats mixtes vont pouvoir mettre en place sur un territoire, il y a sept grands leviers. Le premier, c'est il faut le connaître, cet aléa. Mieux connaître cet aléa, c'est pouvoir après avoir des mesures adaptées et réagir par rapport à cet aléa. C'est surveiller le phénomène. En l'espèce, un débordement d'un cours d'eau, ça vient d'une pluviométrie. Donc il faut commencer par avoir des services de météo efficaces pour pouvoir après, d'ailleurs, prévenir ces sujets-là. C'est aussi de l'information préventive. C'est-à-dire que chaque acteur est citoyen. Et vous l'avez rappelé, dans l'histoire, les humains se sont toujours essayé d'éviter le risque d'inondation. Donc on voit bien que chacune et chacun est acteur de ce risque d'inondation. Donc l'information préventive que l'acteur public, encore une fois, collectivité, syndicat mixte, État ou autre acteur public vont pouvoir mettre en place, c'est fondamental pour pouvoir faire de ce citoyen acteur. C'est aussi fondamental pour la mémoire du risque. Parce qu'effectivement, alors, c'est plus ou moins documenté, mais on a coutume de dire qu'effectivement, on a une mémoire collective d'un risque qui s'éteint au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'on a un événement, collectivement, 3 ans après, collectivement, on va peut-être avoir oublié finalement tous les tenants, les aboutissants de ce risque-là. Donc vraiment, très important cette mémoire de risque. Et aussi ce levier de l'information préventive. Pour beaucoup, c'est le plus efficace. Tout le reste, tout ce que je vais dire juste après, ne fonctionne que quand cette information préventive et ce citoyen est conscient et prêt à agir. Je reviens sur mon listing. Un quatrième point, c'est la maîtrise de l'urbanisation. Et là, on va sans doute en reparler avec un outil qui est le PPRI, le plan de prévention des risques inondation. Le levier suivant, c'est la réduction du risque. Et là aussi, c'est des actions qui vont permettre de réduire ce risque. Et on va en parler aussi. Donc c'est le PAPI, voilà, un terme qui est facile à retenir, le plan d'action pour la prévention des inondations. Et ça, ça va toucher, on va réduire les risques dans l'habitat comme dans l'entreprise aussi. Autre levier, c'est la préparation. Et donc là, on en parlera sans doute aussi, sans que ce soit le sujet du jour, mais effectivement, il faut qu'on se prépare parce que derrière une inondation, ce risque d'inondation, il y a une crise. Et donc, il faut se préparer pour gérer cette crise-là. Et enfin, dernier levier, c'est le retour d'expérience. C'est-à-dire qu'on doit apprendre aussi des inondations passées, des crues passées. Et donc là aussi, il y a tout plein de dispositifs qui vont permettre de regarder tout ça.
Même question pour vous, Jade Bréchignac. Comment présenteriez-vous votre métier, donc les actions en lien qui sont menées ?
Alors, sans faire de redites, parce que c'est les mêmes objectifs. En fait, donc moi, j'anime le PAPI, donc le programme d'action de prévention des inondations, qui n'est qu'une partie des missions du syndicat. Tarnamont, on s'occupe de ce qu'on appelle la compétence GEMAPI. Du coup, c'est gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Sur le territoire, on ne voit pas la gestion des milieux aquatiques sans la prévention des inondations et vice-versa. On travaille vraiment dans une logique de complémentarité des deux. Donc moi, je m'occupe de la partie prévention des inondations. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être spécialiste de tout. Et donc dans le PAPI, c'est un programme d'action qui répond à des objectifs et selon des stratégies qui ont été définies par les acteurs du territoire, qu'on a définies en partenariat avec les élus du territoire. Et donc ces différentes actions qui sont réparties selon différents axes. Donc 7 axes, il y en a au nombre de 7 d'habitude. Donc il y a le premier axe sur la connaissance de l'aléa et sur tout ce qui est communication, sensibilisation. On accompagne aussi les communes à mieux surveiller les cours d'eau, à mieux s'organiser pour faire face à la crise. Donc c'est via les plans communaux de sauvegarde. Donc c'est un peu le mode d'emploi de la commune en cas de survenue d'une crise. On a du coup aussi des actions en lien avec l'urbanisation et en lien avec les services de l'État, avec les PPRI et l'application de ces PPRI qui sont vraiment les zones inondables réglementaires sur le territoire. Des actions de réduction de la vulnérabilité, donc pour les habitants, pour les habitations, pour les entreprises. On a des actions spécifiques sur les campings, nous sur le Tarnamont, parce qu'on est un territoire qui est très touristique. Et donc c'est un des enjeux particuliers qu'on a, que d'autres territoires n'ont pas forcément aussi présents que nous. Et des actions sur la gestion des ruissellements. Classiquement, dans les PAPI, il y a un septième axe sur la gestion des ouvrages hydrauliques. Donc les barrages, nous, sur le Tarnamont, on n'en a pas. Donc on n'a pas cet axe-là.
Justement, ça va d'où à où, le Tarnamont ?
Alors le Tarnamont, on va des sources du Tarn, donc le mont Lozère, et on s'arrête à l'aval de Millau, en fait, avant le premier barrage. Du coup, à la confluence avec la Muse.
D'accord.
Et donc on a donc l'amont du Tarn et tous les affluents, donc la Jonte, la Dourbie, donc on va aussi sur le mont Aigoual.
Vous êtes combien au sein du syndicat ? Technicien.
On technicien. Est 6.
6, d'accord, pour toutes ces missions.
Alors, 6 permanents.
D'accord.
Pour toutes les missions. Donc, on est 2 maintenant à s'occuper de la prévention des inondations. Ils sont 2 chargés de mission milieu aquatique, du coup, pour la partie milieu aquatique. On a une collègue qui s'occupe de tout ce qui est activité de baignade, de loisirs, le lien avec tout ça. Les cyanobactéries aussi. Une collègue qui s'occupe de tout ce qui est administratif et la directrice.
Ouais, ça, c'est un problème ici. Les cyanobactéries sur le Tarn, ça revient régulièrement en période estivale.
Ça revient régulièrement parce que le Tarn est une rivière très occupée l'été, où il y a beaucoup d'activités. Donc forcément, je reprends l'idée du risque, il y a des enjeux parce qu'il y a des personnes qui se baignent. S'il n'y avait personne qui se baignait, les cyanobactéries ne seraient pas un problème.
Vous, Monsieur Pedrini, si on revient sur cette définition un peu de la prévention des risques, inondations et crues, ça représente quoi pour vous, pour un maire justement qui en plus a plein de missions différentes, mais notamment celle-ci à Ispagnac ?
Ça représente surtout le bien-être et la sécurité des habitants de la commune et être vigilant justement par rapport à tout ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire que notre action, nous, elle est à la fois avec le syndicat mixte, mais également beaucoup avec les services de l'État, J'ai été confronté cet été par un événement sur ma commune à cette problématique, je dirais. Et là, c'est un vrai exercice. Et Monsieur Chevrier tout à l'heure parlait de mise en situation. Nous étions préparés non pas sur un événement d'inondation, mais nous avions participé à un test sur un problème de matière dangereuse et la mise en place d'un plan de sauvegarde communale et était en plein là-dedans, si vous voulez. Et nous, notre fonction, elle est justement de veiller à la fois à la réglementation, mais également aux situations qui sont susceptibles de se produire, d'où le travail de collaboration qu'on a avec le syndicat Tarnamont.
Justement, la collaboration, c'est une très bonne transition, vu que ça va être le thème de ce prochain petit chapitre. On le comprend, la prévention des risques d'inondation comporte plein d'aspects, mais surtout plein d'acteurs. Je me tourne vers vous, Jade Bréchignac, car c'est justement, donc, comme vous l'avez rappelé, le syndicat Tarnamont qui a la compétence GEMAPI, qui est un peu voilà, ceux qui vont chapeauter, piloter tous ces acteurs. Justement, comment on pilote tous ces acteurs entre voilà, communes, DDT et encore, il y en a d'autres, on va les citer, mais allez-y.
Alors nous, le syndicat, on travaille pour 9 communautés de communes. Ces 9 communautés de communes nous ont transférer la totalité de la compétence GEMAPI, donc qu'on exerce sur le territoire. Le territoire est réparti sur 3 départements, la Lozère, l'Aveyron et un petit bout du Gard. Ensuite, comment on pilote ? En fait, ce n'est pas nous qui pilotons, c'est nous qui mettons en œuvre des actions. Et pour mettre en œuvre des actions, on les fait en partenariat avec, avec des partenaires financiers, des partenaires techniques. Donc pour le PAPI, le principal partenaire financier, c'est l'État, via le fonds Barnier, qui finance, en moyenne, c'est autour de 50% de la totalité du PAPI. Certaines actions de sensibilisation, comme la pose de repères de crues ou de choses comme ça, l'État va jusqu'à 80% de financement. On a aussi, du coup, la région qui intervient, le Conseil régional d'Occitanie, et l'Agence de l'eau. Alors sur émissions inondations, c'est pas le principal financeur, mais ils interviennent notamment sur tout ce qui est gestion des milieux aquatiques. Et donc en fait, c'est par la mise en œuvre de ces actions qu'on va rechercher et qu'on travaille avec tous ces acteurs, tous ces partenaires techniques et financiers. Et bien sûr aussi avec les élus, du coup des communautés de communes et des communes.
Comment ça se passe ? C'est eux qui viennent vous voir en disant « j'ai un problème » ou « j'aimerais travailler avec vous sur ce point précis » ou c'est vous qui venez les voir en disant « mais voilà, là, il y a des travaux à effectuer ou de la sensibilisation à faire ». Ça se passe dans quel sens ?
Dans les deux sens.
Dans les deux sens.
Il y a beaucoup un travail à l'opportunité. Là, on va travailler typiquement avec la commune d'Ispagnac. On va les accompagner sur la réactualisation du plan communal de sauvegarde. Parce qu'ils ont eu un événement cet été, un événement orageux, avec des inondations. Ce n'était pas une inondation du Tarn, c'était une inondation par ravinement, par ruissellement, avec des routes qui ont été coupées. Et donc, ce sujet n'avait pas été encore pris en compte dans le PCS, et donc on va essayer de l'intégrer. Donc là, c'est un peu à l'opportunité, des événements. Mais aussi, parfois, c'est... dans l'autre sens, c'est selon notre connaissance du territoire, notre connaissance des aléas, parfois on peut aussi aller voir les communes ou des différents acteurs en disant là ça pourrait être bien de faire quelque chose ou voilà, ça va dans les deux sens.
Ouais, c'est intéressant parce que justement voilà le problème d'Ispagnac, on peut se préparer à ce que le Tarn déborde et là pour expliquer à nos auditeurs hein, ce qui s'est passé au niveau de cet été, c'est pas du tout le Tarn qui a débordé, c'était un autre problème où on s'y attendait pas forcément.
Non, c'est pas du tout ça et en fait on était en alerte inondation malgré tout. Mais c'est pas le Tarn qui a débordé sur un camping qui est en proximité du Tarn. C'est un autre ruisseau qui venait d'un hameau et qui a déboulé, je dirais, dans le camping. En plus, au bas de ce camping, il y avait un puits qui s'est rempli de manière très très rapide, qui a débordé et qui a provoqué une inondation sur le bas du camping, obligeant nombre de campeurs à quitter les lieux et nous obligeant, nous, à mettre en place le plan communal de sauvegarde sachant que nous avions effectivement le risque de coupure de voie d'accès.
Alors avant que ça devienne ce problème, comment on peut y faire face? Il y a des problèmes qui sont insolubles comme ça, il faut que ça arrive pour qu'on se dise « Ah ben, voilà, il y a un puits, il y a un ruisseau qui peut déborder, donc on va travailler dessus », ou on fait des études pour se dire « Voilà, on va voir tous les champs possibles des problèmes qui peuvent intervenir et on va essayer de les résoudre, comment ça se passe ?»
Alors idéalement, on fait des études pour savoir où ça peut se passer et on essaye d'être dans la prévention et plutôt qu'être dans le curatif.
Ouais. En fait. Mais ça arrive qu'on on passe à côté d'un problème comme ça ?
Ça arrive et surtout à nos échelles, et on est sur des territoires de source ou du coup on est sur des territoires amont qui sont très escarpés avec un risque torrentiel et en fait plein de petits ravins. Du coup un ravin alors je vais réutiliser un gros mot, un talweg, c'est un... Enfin, là où se concentrent les eaux de pluie. Et donc ça, en fait, il y en a partout. Donc c'est compliqué de pouvoir être partout en même temps.
Peut-être là-dessus, ouais. Monsieur Chevrier, si pardon.
Je m'excuse de vous couper. Juste pour préciser, l'événement qu'on a subi cet été sur le camping, c'est vraiment un orage qui était vraiment positionné sur la commune d'Ispagnac. On a eu énormément de dégâts, notamment au niveau de la voirie, en plus de ces problèmes-là. Mais c'était vraiment un orage localisé d'une violence anormale, je dirais. Et donc là, malheureusement, même peut-être qu'on ne peut jamais dire jamais, mais même si on avait fait tout ce qu'il fallait faire, ça serait peut-être arrivé.
Ça
parce
serait
que
arrivé
c'était
quand
vraiment
même
l'événement exceptionnel par excellence.
C'est effectivement qui peuvent arriver en moyenne montagne.
Et ça, c'est typiquement, en fait, là, le deuxième problème de comment anticiper ce genre de phénomène. Donc, il y a la géographie du lieu et il y a prévoir la météo. Donc là, on était en vigilance orange, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on savait que potentiellement, ça pourrait tomber et fort. Quand je dis ça, c'est la pluie. Par contre, les services de météo, et actuellement, en fait, on n'est pas capable de savoir exactement où va tomber une cellule orageuse. Donc elle est tombée là cette fois sur Ispagnac, peut-être que la prochaine fois ça sera à Saint-Enimi, peut-être que la prochaine fois ça sera à Mende. C'est très compliqué en fait de prévoir ça.
Donc comment travaille le service? Il y a un service, la DDT, spécifique sur la prévention des risques. Comment il travaille justement pour anticiper toutes ces multiples risques qu'il peut y avoir sur une commune comme justement Ispagnac?
Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la question des études. C'est-à-dire que ces risques-là, alors, il y a des études techniques, j'y reviendrai, et puis il y a aussi la connaissance, je l'évoquais au tout début, des phénomènes et le retour d'expérience. Et le premier élément de l'étude, c'est ça, c'est bénéficier de l'histoire et de ce qui a pu se passer sur cette commune-là. Pas forcément l'histoire à l'échelle humaine, quoi, c'est l'histoire à l'échelle de l'ensemble, de toute l'histoire de la collectivité. Mais peut-être pour rebondir aussi un tout petit peu sur la question précédente et pour éclairer vos auditeurs, en matière d'inondation, on a des images dans la société sur le sujet d'inondation. Et pour resituer le cas de la Lozère vis-à-vis de ces grandes images, j'ai envie d'en dresser deux images qui sont effectivement les deux modes de crue qu'on trouve en France. Il y a la crue dite torrentielle. C'est notre cas en Lozère. On est sur ce type de crue. Et les images qu'on a dans la société, c'est Vaison-la-Romaine. Alors pour les plus anciens, Vaison-la-Romaine avec la caravane qui est bloquée et qui finit par céder, écrasé sous le pont. Vaison-la-Romaine, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais dans l'histoire aussi des politiques publiques en matière d'inondation, est assez charnière, Vaison-la-Romaine. Dans le débat, on y reviendra peut-être. Donc Vaison-la-Romaine, et puis plus récemment, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est la vallée de la Roya. On a toute cette image de la maison avec les personnes un peu dramatiques. Hein, je veux dire, les personnes qui sont dans la maison, puis la maison qui disparaît dans les eaux tumultueuses. Là. Ça c'est la crue torrentielle. Ça arrive très vite. Et ça repart vite. Voilà, c'est vraiment cette image-là. L'autre image qu'on a et qu'on vit, que vivent certains territoires en France, les grandes vallées, la Somme, l'Oise, la Seine, ce sont des crues qui sont beaucoup plus lentes, qui arrivent plus lentement et qui restent plus longtemps. Donc là, c'est l'image qu'on a tous. On voit des villages et des villes qui fonctionnent avec des planches sur des parpaings qui
et
servent de trottoir.
Paris aussi.
Les grandes crues de 1900, on a tout ça, ces images. Et ça, c'est vraiment deux idées différentes. Et c'est important parce que on dit tous, mais tiens, finalement, on peut vivre sur l'eau. Je voulais en l'évoquer en préparant l'émission. Venise est construite sur l'eau, et ça fait quelques siècles que Venise est là. Oui, mais attention, Venise fonctionne sur l'eau. Nous, Venise ne fonctionnerait pas dans la vallée du Tarn, quoi. Donc c'est important d'avoir cette différence, parce que finalement, ça guide complètement la capacité à réagir à l'inondation. Et donc la prévention, elle va se jouer de manière différente dans les deux cas. Je reviens sur votre question, pardonnez-moi. Et donc sur votre question, comment on s'organise, effectivement, donc il y a l'État, avec tout l'historique sur l'aspect politique de prévention des crues, l'État a été assez rapidement, dès le 19e siècle, on voit l'État déjà être présent pour prévenir le risque. Et là, avec une logique on endigue. Donc on a eu plein de chantiers au 19e siècle, on a endigué, on a protégé les villes, les premières usines du fleuve. Donc on a fait beaucoup de digues dans certaines grandes vallées. Et j'évoquais, donc l'État avait cette politique en main et l'a gardée jusqu'à aujourd'hui, avec des changements, mais on y reviendra peut-être. Et en tout cas, l'État va mettre en place toute une architecture aussi pour gérer cette prévention des risques. Et notamment, ça vient de l'État, mais ça part aussi au niveau européen. Il y a une directive inondation qui a été publiée et qui permet aussi d'organiser tout ça. Et l'organisation qui a été choisie aujourd'hui, c'est une organisation par bassin. Pourquoi ? Pour coordonner finalement la façon dont on gère ce risque, à l'échelle nationale certes, mais aussi à l'échelle d'un bassin, d'un linéaire d'un cours d'eau. Donc c'est pour ça qu'effectivement on a un syndicat de bassin qui va gérer ce risque-là, et des collectivités aussi qui, dont les compétences ont été mises au même endroit où finalement on va trouver d'autres politiques publiques, les questions d'aménagement du territoire par exemple, se retrouver cette question-là au même niveau pour pouvoir gérer cette problématique-là. Donc voilà sur ces sujets de l'État.
Et donc, sur la partie, voilà, donc comment on collabore ensemble, là, on voit bien que tous les micros étaient pris, on n'a pas pu ramener les autres acteurs, mais justement, qui on pourrait citer autour de vous, dans vos réunions, autour de la table, il y a qui, ce que je me posais notamment sur la question d'Hispania, qu'on va y revenir après, mais on est au sein du parc national des Cévennes, alors il y a l'aire d'adhésion, mais il y a aussi, j'ai vu, je crois, une petite partie appelée cœur de zone, qui est aussi sur Hispaniac. Est-ce que ça complique ou pas, ou même ça peut faciliter le travail d'être justement dans un parc national avec peut-être des réglementations particulières ?
Oula.
Plus il y a d'acteurs, normalement, plus c'est compliqué, mais peut-être pas...
Si, c'est ça, en général, plus il y a d'acteurs, plus c'est compliqué. Là, en fait, sur le parc national des Cévennes, la spécificité, du coup, c'est un parc national. Il y a deux zones, une zone cœur et une zone d'adhésion. Dans la zone cœur, en fait, il y a une réglementation spécifique qui s'applique. Du coup, tous travaux qu'on fait ou qu'on pourrait faire ou qu'on envisagerait dans cette zone cœur de parc est soumise à validation du parc des Cévennes. Parc national des Cévennes.
Mais il n'y a pas de politique particulière du parc national sur le risque d'inondation. Voilà, c'est les travaux courants qui peuvent être faits dans d'autres cadres.
Quoi. D'accord. Et sinon, le long du Tarn, alors c'est quoi ? C'est les communes, communautés de communes, État, à part le parc national des Cévennes, il n'y a pas d'autres intervenants, j'imagine.
La région, l'agence de l'eau.
Ah oui, la région,
Les départements, parfois. Ah oui. Et puis après, toutes les personnes avec qui on travaille régulièrement, tous les acteurs de l'éducation à l'environnement. En Lozère, on travaille régulièrement avec Le Réel, qui est une association de plusieurs...
Qu'on connaît bien, voilà. Sur notre antenne.
Je pensais aussi peut-être aux riverains. J'ai vu sur votre site, il y a une petite présentation de ce que vous faites. À un moment, une personne interviewée, donc elle est association du Tarn et de sa vallée, quelque chose comme ça. Est-ce que les associations aussi sont mises au bord de la table? Je ne sais pas.
Ouais,
également.
Alors, en général, oui, parce que par exemple, nous à Hispaniac, nous avons une association de protection du Tarn qui intervient essentiellement sur l'aspect préservation du Tarn en matière de pollution, mais qui est un interlocuteur dès qu'on est amené à parler de ce qui touche à la rivière.
Oui, donc les habitants aussi sont intégrés au processus de décision.
Bien sûr. Bien sûr. Oui, parce que c'est des... On a parlé des PAPI, on a parlé des PPR. Ce sont des plans qui vont toucher le cadre de vie de chacune et chacun. Donc effectivement, c'est des documents qui sont très forts. Un PPR, effectivement, ça va définir la capacité de pouvoir construire sur le sol à tel ou tel endroit. Donc on imagine bien derrière tout ce qu'il peut y avoir comme enjeu sur le prix du foncier, et que ça peut toucher des familles, des successions. Enfin voilà, ça touche la vie du quotidien. Vraiment, c'est vraiment important. Et sur un papier, on peut aller sur des choses qui sont très concrètes, des actions très concrètes. Une cuve à gaz, et il faut comment je l'ancre pour éviter qu'elle devienne en bac. Enfin, il y a des sujets qui sont vraiment du quotidien des personnes. Donc oui, les habitants sont forcément très, très, très associés à ces démarches-là.
Et donc, on va rester dans le... C'est un monde avec beaucoup d'acronymes, mais je vais encore en citer un. Donc si je résume un peu, donc, un chef d'orchestre, le syndicat mixte, car il a la compétence GEMAPI. Et une partition commune, peut-être, c'est le PPG, c'est ça, donc le plan pluriannuel de gestion des milieux aquatiques. Qu'est-ce que c'est, justement, ça m'intéressait, je crois que c'est aussi en lien avec ces actions-là que vous menez pour la protection ouais. et la prévention.
Alors, en fait, le PPG et le PAPI sont frères, on va dire, ou cousins, ou voisins. C'est deux outils que le syndicat utilise, du coup, le PAPI pour la prévention des inondations et le PPG pour la gestion des milieux aquatiques. Le PPG, donc un peu pareil, fonctionne un peu pareil, donc avec des financements de la part des partenaires financiers. Là, c'est principalement l'agence de l'eau. J'ai plus les chiffres en tête, du coup, je préférerais pas dire de bêtises. L'objectif du PPG, c'est de connaître l'état actuel, du coup, d'avoir un état des lieux, et de, comme pour le PAPI, de déterminer des problématiques, de les partager avec les élus, avec les riverains, avec les occupants du territoire, et après, donc, de définir des actions. Pareil que le PAPI, qui vont répondre aux problématiques et répondre aux enjeux. Du coup, ça va de préserver le milieu, la biodiversité. Il y a aussi des actions qui sont transversales entre le PAPI et le PPG, et du coup, qui sont en lien avec les inondations. Une des grosses actions du PPG, c'est de gérer la ripisylve. Donc la ripisylve, c'est la partie forestière, en fait, qui est en bord de cours d'eau. Où là, c'est un travail d'orfèvre, on va dire, pour en même temps garder assez de végétation pour qu'elle tienne les berges, mais en même temps enlever les sujets, donc les arbres, qui risqueraient de tomber dans la rivière en cas de crue, et donc d'aller se bloquer dans les ouvrages, dans les ponts, et de créer des embâcles et donc des surinondations.
Je voulais revenir sur justement la participation des habitants. Vous, sur votre commune à Espagnac, vos administrés sont intéressés par le sujet. Ils viennent souvent vous en parler de la prévention inondation. C'est quelque chose là qui les concerne aussi, un sujet pour votre mandat.
C'est un sujet pour le mandat, oui et non. C'est-à-dire que je pense que on vit avec la rivière aussi, donc on a. Il y a une certaine mémoire de tout un tas de choses qui fait que c'est pas forcément la préoccupation première. C'est, on en parlait tout à l'heure, je crois, on le disait, il y a le problème de la mémoire.
3-4 ans, vous disiez,
3-4 ans de mémoire, ouais. Et court, ça disparaît, hein. C'est assez court. Et donc, si on n'a pas un gros événement qui touche à un gros nombre de personnes, je ne pense pas qu'il y ait une réelle prise de conscience. Simplement, la prise de conscience, elle se fait notamment par rapport au PPRI, encore un acronyme, qui est le programme de prévention des risques d'inondation, qui a une répercussion sur les permis de construire, les aménagements, etc. Donc là, on a un vrai contact avec la population qui, à ce moment-là, se passe pas toujours bien parce que, effectivement, quand on leur annonce qu'ils ne peuvent pas faire de travaux sur un terrain ou qu'ils ne peuvent pas faire d'amélioration, ça pose davantage de problèmes, mais c'est assez individualiste comme démarche, quoi.
Après, c'est vrai aussi au niveau de l'État, au niveau national. On voit avec la loi d'imperméabilisation des sols, on y revient dessus, on repart, on va. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué.
Je vais vous couper parce qu'on va arriver à l'heure de la pause musicale. Et on évoquera après donc les actions concrètes menées à Espagnac et les solutions justement de prévention des risques. Mais voilà, donc c'est l'heure de la pause sur 48FM avec une reprise de Serge Gainsbourg. Je sais que ça va faire plaisir à Ludovic. Signé Madeleine Pérou, c'est la javanaise, une musique présente dans le film Shape of Water, la forme de l'eau, pour rester dans le thème.
Pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Song. qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la japonaise, nous aimions le temps d'une chanson.
C'était la reprise de la javanaise par la chanteuse Madeleine Perroux. Vous écoutez toujours Théma avec une émission aujourd'hui ayant pour thème la prévention des risques inondations en Lozère. Et justement, on a la chance d'avoir autour de la table Monsieur Pedrini, maire d'Ispagnac, une commune justement sujette aux inondations et crues du Tarn. On l'a dit, et puis encore d'autres problèmes aussi, on l'a rappelé en première partie d'émission. Cette prévention des risques, c'est un élément important de la vie de votre mandat
C'est un élément important. On ne peut pas faire abstraction de la rivière, parce que la rivière, c'est à la fois notre or noir, on va dire. Hein, c'est-à-dire que cette rivière, elle est belle, on y tient, elle attire du monde. Donc forcément, il y a le contrepoint de tout ça. C'est avoir une rivière de l'importance du Tarn qui traverse le village, c'est forcément un risque. En matière de prévention, on essaye malgré tout de solliciter les propriétaires, puisque notamment au niveau des riverains du Tarn, puisqu'ils sont normalement propriétaires de leur terrain jusqu'à la moitié du lit. Donc il y a de l'entretien qui est demandé. C'est pas toujours suivi des faits, mais on essaye malgré tout de solliciter les personnes et de les motiver là-dessus. Dans le cadre des OLD, les obligations légales de débroussaillement, ça peut être un moyen de nettoyer un petit peu les berges et éviter les risques. Et puis on a bien sûr ce fameux plan de prévoyance de risque inondation. qui est mis en place et qui limite ou freine la construction sur des lieux dangereux. Et puis, en termes d'action, au-delà de la prévention, on essaye de résoudre les problèmes. C'est ce qui s'est produit avec les services de la DDT et le syndicat mixte pour une maison que nous sommes amenés à détruire.
Et voilà, ben on peut en parler. Donc c'est dans le cadre du fonds Barnier, le fait qu'on puisse acquérir une maison pour la détruire. Je sais pas qui veut en parler un peu de ce système-là et ce qui s'est passé à Espagnac.
Je peux en parler sur le système de le fonds Barnier. Alors le fonds Barnier, j'évoquais tout à l'heure Vaison-la-Romaine, la catastrophe de Vaison-la-Romaine. Le fonds Barnier, ben comme le PPR d'ailleurs, il est issu des lois Barnier. Donc en 95 a été mis en place ce fonds-là, qui est un fonds qui vient de l'assurance. Donc c'est effectivement sur des biens qui sont assurés, donc ça provient bien de cette ligne budgétaire-là. Et le fonds Barnier va permettre effectivement à la collectivité d'acquérir le bien. Donc la collectivité va se tourner vers l'État en disant, voilà, on a ce bien-là qui est à tel endroit, qui est en zone inondable, qui a subi des crises, des inondations à répétition. Et on a déjà étudié le fait de pouvoir réaménager ce bien-là, et on se rend compte qu'économiquement, ça ne vaut pas le coup de le réaménager ou de le protéger vis-à-vis de l'inondation. Donc la seule solution, l'aboutissement, ça serait d'acquérir ce bien. Alors l'acquisition se fait soit à l'amiable, soit effectivement la commune peut effectivement exproprier. En l'espèce, c'est une négociation à l'amiable. Et derrière, le fonds Barnier va permettre donc l'acquisition d'une part, et d'autre part aussi la démolition de ce bien-là.
Et donc, vous l'avez rappelé, donc les critères pour qu'un logement, en tout cas une habitation, puisse être dans le fonds Barnier, il faut qu'elle soit forcément sur le PPI en zone fortement à risque, ou si par exemple il y a une crue extraordinaire, un jour pour quelqu'un ça monte assez haut, il se dit bah, maintenant moi je ne veux plus habiter, vous pouvez me la racheter, ou il faut quand même qu'il y ait une récurrence, ou en tout cas, encore une fois, qu'elle soit sur les cartes.
Oui, il y a l'idée quand même d'une récurrence, quoi. Alors, soit effectivement, elle est dans une zone rouge, donc on estime que la récurrence, elle l'est déjà acquise quelque part, soit effectivement, elle ne l'est pas. Et là, effectivement, c'est plusieurs événements qui ont amené le bien à se trouver dans cette situation-là.
Et vous, donc, Jade Bréchignac, sur cette acquisition de logements, on disait tout à l'heure aussi, avant l'émission, ça, c'est pas non plus, c'est assez rare, là, en Lozère, en tout cas sur le territoire. Vous intervenez à quel niveau pour ce genre de mission ?
Alors, comment ça s'est... En fait, on intervient au début. C'est vraiment un projet qu'on a co-construit avec la commune et avec les services de l'État. Donc, en fait, cette maison a été identifiée grâce à... Enfin, dans le papier d'intention, du coup, le premier papier qu'on a animé sur le territoire, on a proposé des diagnostics de vulnérabilité aux habitants en zone inondable. Il y a une nouvelle campagne là, qui va être proposée, qui va être ouverte là tout début 2025. Je pourrai en parler tout à l'heure. Et donc, ce diagnostic de vulnérabilité permet en fait d'aller dans l'habitation, d'identifier les points vulnérables et de déterminer précisément le niveau de l'eau selon la crue de référence dans l'habitation, et de déterminer une liste de mesures et d'actions qu'on pourrait mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité. Donc classiquement, c'est mettre des bâtards d'eau, donc c'est des barrières anti-inondation sur les ouvertures, sur les portes, surélever les prises, changer les matériaux vulnérables comme de la moquette par du carrelage, qui du coup est plus facilement nettoyable. Donc voilà, il y a plein d'actions qui peuvent être mises en œuvre pour qu'on adapte notre manière d'habiter en zone inondable. Là, sur ce diagnostic, il se trouve qu'en plus, il y avait notre référent au service de l'État qui était venu avec nous pour le diagnostic de l'habitation là, qui nous concerne, dont on parle. Et en fait, c'est une maison qui a été jugée très vulnérable. Aucune des mesures classiques de réduction de la vulnérabilité n'était adaptable. On a retrouvé des photos de la crue de... Alors, je ne sais plus si c'est...
82.
82. Où en fait, l'eau arrive presque jusqu'en haut du toit de la maison. Donc, il n'y a pas d'espace refuge.
Ouais, c'est dangereux, oui.
Les habitants de cette maison n'ont nulle part où aller pour se réfugier si l'eau est déjà là.
Donc là, il n'y avait pas d'autre choix, oui.
Il n'y avait pas d'autre choix. Ouais. Après, c'est un travail qu'on a mené vraiment de concert entre trois, quatre parties. Du coup, il y a nous, le syndicat, qui avons accompagné techniquement, la commune, les services de l'État et la propriétaire elle-même aussi qui a accepté de vendre, et parce qu'en fait, elle ne vivait déjà plus dans cette maison parce qu'elle a vécu une inondation. Et il y avait vraiment une peur que ça réarrive. Et,
Bien sûr. Alors c'est intéressant de parler de l'architecture. C'est vrai qu'à l'époque, on construisait sur des maisons inondables, mais à l'époque, pas mal d'années, on vivait à partir du premier étage. Hein. C'était que des caves au rez-de-chaussée. Hein. Par exemple, au Salel, il y a beaucoup de maisons comme ça.
Les caves, les bêtes, le fourrage.
Les bêtes, le fourrage.
Et s'il fallait, on montait Marguerite, la vache, dormir à l'étage. Mmh. J'ai eu des histoires comme ça sur le territoire.
Et dans l'étude, il faut préciser qu'il y avait, dans le diagnostic, il y avait ensuite eu une étude qui avait été faite pour essayer de voir si on pouvait maintenir cette maison, éventuellement la surélevant, etc. Et les travaux n'étaient pas possibles parce que la structure de la maison ne pouvait pas supporter une surélévation. Donc ça a été un élément supplémentaire qui a incité la propriétaire à rentrer dans cette démarche. Et nous, on y est rentré volontiers dans la mesure où, d'abord, il faut remercier les services de l'État. Et également Jade et le syndicat mixte pour l'apport qu'ils nous ont apporté dans cette démarche, mais surtout l'aspect financier, parce que c'est une opération blanche pour la commune, puisque l'ensemble des frais acquisition, démolition sont pris en charge par le fonds Barnier.
Donc là, le fonds Barnier, c'est vraiment l'ultime étape quand il n'y a pas d'autres solutions. Mais on l'a dit, parfois, il y a d'autres solutions. Et là, c'est un autre dispositif qui arrive, le dispositif à l'abri. Alors à chaque fois, j'aime bien voir j'admire les gens qui trouvent des acronymes parfaitement. C'est accompagnement pour l'adaptation de votre bâti au risque inondation. Qu'est-ce que c'est justement ce fonds à l'abri? C'est l'étape avant d'arriver au fonds Barnier et l'acquisition du logement?
Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, le fonds Barnier, ça c'est son surnom. Son vrai nom, c'est le fonds de prévention pour les risques naturels majeurs. Le fonds Barnier, c'est lui qui finance. Quand je disais que notre principal partenaire financier, c'était l'État, c'est via le fonds Barnier. Et donc, il finance toutes les actions que nous, on mène en matière de prévention des inondations. La subtilité avec les habitations, c'est qu'elles, pour utiliser le fonds Barnier, elles sont pas obligées d'être intégrées dans un PAPI. Bref, je vais passer tous les détails, c'est un peu plus complexe, mais du coup, le fonds Barnier finance les dispositifs à l'abri, qui ne s'appellent pas à l'abri sur tous les territoires. Nous, on a choisi, c'est les gardons qui avaient inventé cet acronyme, à l'abri. Et donc c'est bien le fonds Barnier qui finance donc les diagnostics qu'on va proposer aux habitants via cette campagne à l'abri. Donc au final, le diagnostic est totalement gratuit pour l'habitant. Et derrière, lui ouvre droit à des financements pour mettre en œuvre les travaux jusqu'à 80%, donc toujours via ce fonds Barnier.
Oui, c'est ça. Là, j'ai en face les différents tarifs. Et c'est peut-être pour ça aussi que ce n'était pas possible pour cette maison-là. C'est que pour les espaces refuges notamment, la dispense subventionnable est plafonnée à 20 000 euros. Et ça devait sûrement ne pas être réalisable, en tout cas même aussi pas souhaitable de la part des propriétaires.
Oui, et puis c'était surtout techniquement, c'était surtout l'aspect technique qui freinait. Hein.
Techniquement pas possible et on parlait tout à l'heure de zones de parc, on est dans le parc national des Cévennes, y a quand même, on est dans les gorges du Tarn,
ouais.
On va pas se retrouver avec des immeubles de 3 étages entre la rivière et le camping et au milieu des gorges.
Juste peut-être pour compléter sur le fonds Barnier, effectivement, donc c'est vraiment l'outil ad hoc pour gérer toutes les crises des risques naturels, pas que les inondations, le fonds Barnier aussi. Et aussi, donc effectivement, ça intervient dans le cadre d'un PAPI, et ça peut aussi intervenir pour des particuliers ou des entreprises, dans le cadre le plan de prévention des risques, le PPRI, va prescrire des travaux. Il peut prescrire aussi des travaux pour des bâtiments existants. Et donc là aussi, le fonds Barnier peut intervenir dans ce cadre-là. Donc vraiment, c'est l'outil ad hoc pour tout ce qui va être risque naturel et donc qui va financer l'ensemble des mesures.
L'idée de quand, le fonds Barnier?
96, c'est ce que j'évoquais.
96, c'est
95,
ça.
96, je n'ai plus la date exacte, mais c'est vraiment Vaison-la-Romaine qui a recréé un autre dispositif politique pour accompagner ces éléments, le PPR et le fonds Barnier.
Okay. Et le fonds Barnier, c'est un fonds national qui après, c'est un fonds après où on peut puiser, ou est-ce que chaque département ou chaque bassin versant a quand même son portefeuille et doit respecter un portefeuille, et d'ailleurs de combien il est en ce moment, là en 2024 par exemple?
C'est pas vraiment un portefeuille qui est délégué, donc pour ça je pourrais pas répondre aujourd'hui, ni pour 2024, parce que tout n'est pas terminé, ni pour 2025. C'est pas une dotation départementale à chaque fois, parce qu'effectivement vous voyez bien que les événements climatiques ils arrivent pas chaque année au même endroit tout le temps, ça serait trop facile et en même temps bien compliqué, mais donc du coup c'est un un fonds qui est national, effectivement, avec une des dotations qui sont gérées au niveau régional et départemental. Donc à chaque fois, effectivement, quand on a eu un événement particulier ou qu'on a des papilles qui sont au début ou en cours de plan d'action, en tout cas de mise en œuvre, eh ben c'est là où on va les solliciter, ces éléments-là. Mais c'est pas un puits sans fond, hein, le fonds Barnier. Donc là aussi, c'est dans le cadre d'une certaine enveloppe nationale qui est gérée au niveau national.
Du coup, il y a une demande là pour Langogne, Villefort, les derniers événements là, cet hiver d'inondation sur le fonds Barnier. Alors,
c'est pas du tout dans le cadre de la catastrophe naturelle.
Ça, c'est pas d'accord.
L'événement post-crise, c'est la catastrophe naturelle. Donc là, on est sur un autre dispositif assurantiel. Le fonds Barnier, c'est vraiment la prévention.
D'accord.
On va vraiment travailler sur la prévention. Et alors, ça n'empêche pas ces communes-là.
Ça n'empêche pas de demander ces communes-là pour l'avenir, oui.
Et d'accord. Ces communes-là, avec bénéfice, effectivement, elles posent aussi des dossiers. Alors, même si elles ne sont pas dans le cadre d'un papy, elles peuvent aussi bénéficier. Alors cette fois-ci, c'était le fonds vert dont on a parlé aussi dans d'autres sujets, qui avait des mesures particulières et qui touchaient au fonds Barnier, qui ont pu effectivement déposer des demandes pour des bâtards d'eau, pour d'autres sujets comme ça.
Allez-y, monsieur le maire.
C'est l'ancien assureur qui parle là, mais le fonds Barnier, en fait, il est alimenté par un prélèvement fait sur la garantie catastrophe naturelle des contrats habitation et automobiles. Alors on peut espérer qu'il va augmenter puisqu'il va y avoir une forte augmentation de la cotisation catastrophe naturelle prochainement. Donc, mais il est alimenté par ça. Je crois que c'est 12 ou 15% qui représente cette alimentation.
Ce qui est dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, j'ai évoqué la condition d'être assuré. C'est pour ça. Le fonds Barnier n'interviendra pas sur un bien qui n'est pas assuré ou assurable.
Et donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, une campagne, je voulais peut-être me dire à la conclusion, mais c'est vrai que là, on est déjà en train d'en parler. Donc, il y a, effectivement, si quelqu'un nous écoute et se sent concerné, se dit effectivement, je remplis les critères, il y a une campagne pour vous contacter. On peut vous contacter si votre bien est... Oui. Rentre dans les critères.
Alors, on va proposer du coup des diagnostics de vulnérabilité, à tous les habitants en zone inondable. Donc, classiquement, ça sera ouvert à tous ceux qui sont dans une zone inondable réglementaire. On s'est aussi mis d'accord avec les services de l'État pour pouvoir le proposer à des habitations qui auraient été déjà inondées, par exemple dans les ravins ou par du ruissellement, qui ne sont pas dans des zones inondables réglementaires, mais si elles arrivent à prouver par des photos, par des choses comme ça, qu'elles ont déjà été inondées, on pourra leur proposer un diagnostic de vulnérabilité. Donc sur tout le Tarn-Amont, c'est 400 diagnostics qui seront proposés aux habitants. On va aussi en proposer 60 pour les entreprises et 30 pour les campings. Donc c'est une opération assez ambitieuse comparée aux autres opérations
Sur la Lozère seulement ?
Non, sur tout le Tarn-Amont.
Surtout, je vais même dire, c'est beaucoup.
Sur tout le Tarn-Amont. On est en train d'organiser, donc on a le bureau d'études Mayanne qui va nous accompagner pour faire les diagnostics. Donc c'est un bureau d'études spécialisé qui va réaliser ces diagnostics et qui ira jusqu'à l'accompagnement dans la réalisation des travaux pour les personnes qui souhaitent aller jusqu'au bout. On est en train là de peaufiner comment tout va s'articuler et donc les habitants pourront s'inscrire à partir de incessamment sous peu, normalement avant le printemps.
On pourra rappeler notre journal par exemple.
On vous fera passer l'information, il y a une adresse email qui sera dédiée, un numéro de téléphone, on va organiser des réunions publiques aussi pour les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations et on enverra aussi des courriers à toutes les personnes à qui on proposera ce dispositif.
Allez-y,
justement. Ça me permet de rebondir par rapport à la question de votre collègue. Effectivement, peut-être pour recadrer, aujourd'hui en Lozère, il y a deux papis. Il y a un papi effectivement au niveau du Tarn et un papi sur le Lot élargi. Donc voilà, c'est pour de dire qu'il n'y a pas que les territoires du Tarn. Donc les personnes qui sont sur d'autres territoires peuvent effectivement, dès lors qu'elles sont couvertes par un papi.
Il nous reste à peine un petit quart d'heure, 10 minutes, et encore plein de choses à voir avec vous. Donc voilà, on vient de voir comment protéger les habitations, ou même les détruire si elles ont été construites dans des zones trop dangereuses, et que les propriétaires souhaitent partir de leur domicile. Mais à présent, je voudrais que l'on parle des solutions qui existent pour éviter justement que l'eau arrive jusqu'à ces habitations, avec des solutions par la nature. Je ne sais pas qui veut commencer à dresser un éventail des solutions naturelles pour... amoindrir le lit de la rivière quand les crues arrivent. On parle de renaturation protection des cours d'eau, des zones humides, des protections des zones ripariennes. Qui veut commencer
Sachant voilà, qu'on a déjà parlé de ripisylve.
Je pense que Jade va être parfaitement à même de répondre à cette question.
Merci. C'est compliqué. En fait, on ne peut pas... Alors, ce n'est pas compliqué, c'est complexe. On ne peut pas empêcher l'eau de déborder. Le but, ça va être de la freiner au maximum. Et donc, pour la freiner au maximum, on va essayer de la gérer au moment où elle tombe. Du coup, la goutte de pluie. Cette goutte de pluie, si on arrive à éviter qu'elle arrive directement dans la rivière, directement grossir les flots de la rivière, on a gagné. Donc ça, c'est tout ce qu'on joue sur la préservation des sols, agricoles, forestiers, des zones humides, qui sont des vraies éponges, en fait. Ça fonctionne vraiment comme une éponge. Du coup, tant que cette éponge est fonctionnelle, on arrive à conserver ces gouttes de pluie, enfin, cette eau, et à la freiner. La gestion de la ripisylve. La ripisylve, du coup, cette bande arborée en bord de cours d'eau, freine l'eau. Du coup, l'eau arrive moins vite chez les voisins à l'aval. On parlait de zone d'expansion de crue. Aussi, on peut parler de zone d'expansion de crue. Si on laisse à la rivière plus de place pour se déplacer latéralement, elle peut les freiner. Et du coup, elle perd son énergie dans ces zones-là et on évite qu'elle aille inonder les habitations qui sont à l'aval.
Et est-ce qu'on on peut accorder protection de la faune et de la flore et protection des humains? Je pense par exemple justement à la suppression des seuils pour les poissons, mais est-ce que ça ne fait pas peut-être accélérer le débit des cours d'eau? Est-ce que des fois il n'y a pas un peu une problématique de comment régler l'équation encore plus dans un parc national entre protection de la faune et de la flore et justement réduction du débit quand la crue arrive?
Alors, en général, enlever un seuil, même pour la prévention des inondations, ça peut être une bonne idée.
C'est aussi une bonne solution.
Parce que du coup, on relaisse de l'espace latéral à la rivière au lieu qu'elle soit endiguée et bloquée dans des digues solides. L'exemple typique, je vais y revenir, c'est la maison à Hispania qu'on démolit. On enlève un enjeu humain et cette zone va devenir, du coup, ça sera la propriété de la commune et la commune souhaite en faire une zone éducative et d'éducation à l'environnement, de sensibilisation. Donc en même temps, on a supprimé un enjeu humain, on relaisse de l'espace à la rivière pour qu'elle puisse divaguer, comme on dit, tranquillement, et en plus, on améliore, on réduit la vulnérabilité, on améliore la préparation des humains, puisqu'on va les sensibiliser aussi sur ce site-là.
Pour compléter, effectivement, il peut y avoir des fois des sujets où on se dit, mais mince, finalement, ça va dans le bon sens ou ça va dans le mauvais sens. On parlait de la ripisylve et des boisements qu'il pourrait y avoir le long des linéaires des cours d'eau. Effectivement, on pourrait se dire, mais s'il n'y a pas les arbres, il y a moins de risques d'embac, finalement, en aval. Et en même temps, ces arbres-là retiennent les berges, permettent effectivement de limiter la vitesse du cours d'eau aussi à cet endroit-là. Donc c'est vrai qu'on a des fois ces sujets où on se dit, mais mince, quel est le bon choix? Et là, c'est des questions à chaque fois. C'est complexe, c'est vraiment ce sujet. C'est pas compliqué, c'est complexe.
D'où ce travail de juste milieu.
Et c'est ça, de trouver le juste milieu et surtout d'aller sur de l'entretien. Parce que, effectivement, c'est pas un arbre, c'est pas un tout ou rien, c'est aussi un entretien. C'est-à-dire que dès qu'on voit qu'il dépérit, il faut l'ôter pour pouvoir éviter que deux jours après, il se retrouve coincé sur le fameux seuil.
Donc, l'heure tourne et si on veut faire un peu une conclusion, il est temps d'avancer avec une question qui a été un peu abordée, mais je voudrais parler d'aménagement du territoire et d'urbanisation. Comment justement mieux intégrer les risques d'inondation dans l'urbanisme, notamment le PLU, là justement la DDT, vous avez deux services, il y a le service prévention des risques et le service aménagement. Comment vous travaillez en commun justement pour, là forcément il y a des ponts qui vont se faire?
Alors, le pont, c'est un objet dont j'ai déjà parlé, c'est le plan de prévention des risques d'inondation. C'est vraiment l'objet qui fait ce pont-là. En Lozère, il y a 25 plans de prévention des risques d'inondation qui couvrent à peu près 70 communes, un peu moins de 70 communes. Quoi. Donc, c'est vraiment cet objet-là. C'est un objet qui date, encore une fois, des années 95, suite à Vaison-la-Romaine, qui vise à cartographier, à l'échelle d'une commune, là où on a des enjeux, donc là où c'est habité, à cartographier, généralement, il y a 3 ou 4 couleurs. Donc, les endroits où on ne peut pas construire, les endroits où on peut construire sous conditions, et peut même, à travers un document qui est lié, qui est le règlement, peut aussi imposer à des constructions existantes certains travaux de confortement. Donc voilà, voilà cet objet-là. Et cet objet, il est applicable, il est rendu obligatoire et doit être intégré dans les fameux documents d'urbanisme que vous évoquez, donc les PLU, éventuellement les cartes communales et les autres outils. Donc on voit bien que c'est cet outil-là qui est un outil de prévention des risques qui va devenir s'imposer dans l'aménagement d'un territoire. Et donc du coup, le PLU, il doit être compatible avec ce plan de prévention des risques.
Et là, sur l'aménagement du territoire, je me tourne vers l'élu, vers vous, monsieur le maire, monsieur Pedrini. Voilà, comment justement aussi on règle encore une fois cette équation, construire pour rendre plus attractif un territoire, et on le sait, en Lozère, on cherche à attirer du monde avec des nouvelles constructions, des nouvelles entreprises, et en même temps, justement, ne pas construire trop proche de la rivière, ne pas construire sur des zones inondables.
Comment arriver à résoudre l'équation? L'équation, elle est simple, c'est que nous, on a la chance sur Hispaniac d'avoir des terrains constructibles qui sont éloignés de la rivière, donc qui ne sont pas directement concernés par le débordement de la rivière. Par contre, il faut qu'on soit vigilant par rapport au problème qu'on évoquait tout à l'heure, des eaux de ruissellement, parce que nous sommes dans un vallon, donc nous sommes particulièrement enclins à avoir ce type de problème avec des ruissellements d'eau, voire des coulées de boue, pourquoi pas, qui peuvent occasionner de gros dégâts. Donc le territoire constructible, il est encore intéressant, hein, puisque nous avons d'ailleurs deux projets assez importants de construction en respectant Lausanne, ce qui a été fait dans le cadre de la révision de la carte communale, à l'occasion de laquelle nous avons limité les surfaces constructibles. Mais il faut également penser à ces problèmes de ruissellement, de petits problèmes particuliers qui peuvent devenir de gros problèmes généraux sur des secteurs.
Et justement, je fais une hypothèse, il y a un projet de lotissement qui va se faire à Hispaniac. Concrètement, quand vous dites qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a une étude qui va être faite sur le ruissellement. Je ne sais pas si c'est vous, du coup, qu'on appelle...
Pour l'instant, on se contente d'études de sol parce qu'on est au tout début du projet. Hein, et en plus, comme c'est un projet participatif, il y a des ateliers qui sont mis en place. Mais il va de soi que ça sera sans doute une problématique qu'il nous faudra aborder, parce que nous avons à cet endroit-là, ou très très proche, une source qui sort régulièrement.
Et par rapport à votre exemple, effectivement, la question qui va se poser, c'est est-ce que ce lotissement, il est en zone rouge du PPR, c'est-à-dire en zone interdite, ou est-ce qu'il est en zone blanche, c'est-à-dire autorisée? Et s'il est en zone blanche, ce lotissement, ben là aussi, dans l'aménagement de ce lotissement, au niveau du permis de construire, est géré, ou du permis d'aménager à l'échelle du lotissement, est géré la question de l'eau pluviale. C'est-à-dire que comment se gère cette eau pluviale-là, c'est aussi traité dedans, et puis il peut y avoir un refus du permis si effectivement cette eau est mal gérée. Et je rajoute, vous avez évoqué, monsieur le maire, le zéro artificialisation nette, qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui fait encore couler beaucoup d'encre. Mais on voit bien que ce sujet-là, il touche le sujet inondation, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, un sol artificialisé va accélérer l'eau et va effectivement limiter finalement l'imprégnation de l'eau par le sol. Donc c'est un facteur aggravant systématiquement sur le risque d'inondation. Donc voilà, on voit bien que ces deux politiques-là finalement vont dans le même sens.
Et donc ça, donc il y a des zones rouges, des zones blanches, mais là on va arriver sur la fin avec est-ce que demain ou plutôt après-demain des zones vont pas se retrouver justement avec des nouveaux plans avec notamment le réchauffement climatique, notamment ici donc qui nous concerne, c'est le réchauffement de la Méditerranée qui entraîne mécaniquement plus d'évaporation de l'eau et donc des épisodes cévenols de plus en plus violents.
Il y a différentes dates
en plus. Ça c'est vous le prenez en compte, c'est quand même un élément important.
Oui.
Je me disais aussi, par exemple, est-ce que l'on classe comme épisode exceptionnel toujours actuellement? Est-ce qu'ils ne vont pas devenir un jour la norme? Comment justement vous gérez tout ça? Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu, Jade, je vous vois acquiescer.
Alors sur le réchauffement climatique, en fait ce qu'on dit, ce n'est pas forcément la quantité d'eau qui va tomber chaque année qui va changer. Par contre, c'est sa répartition dans l'espace et dans le temps. Donc effectivement, on va se retrouver avec des épisodes cévenols beaucoup plus intenses, enfin des épisodes méditerranéens, cévenols dans notre région, beaucoup plus intenses et plus localisés. Donc ça va être, là on parlait des enjeux ruissellement, on commence à s'en préoccuper parce qu'on commence à connaître le Tarn et le Lot éventuellement, enfin pour les autres territoires, on commence à le connaître. Par contre les ruissellements pour le moment, c'est un peu plus complexe. Mmh. Donc ça va être l'enjeu, à mon sens, hein, ça va être l'enjeu là de réussir à prendre en compte ces ruissellements et à s'en prémunir du mieux possible, sachant qu'on ne pourra pas les éviter. Parce qu'on ne pourra pas empêcher un orage de tomber.
Et là, je vais parler à M. le maire, mais vous l'avez dit aussi, M. l'assureur. Est-ce qu'on va aussi continuer à classer en catastrophe naturelle chaque épisode, si dans 5 ou 10 ans, ça va arriver 2 ou 3 fois sur une commune? Alors, effectivement, on parlait de la vallée de la Roya, où ça arrive souvent. Là, vous, à Hispaniac, ce n'est pas non plus encore le cas tout le temps. Est-ce que c'est une crainte, en tant que maire, de se dire un jour... un épisode qui était encore classé catastrophe naturelle, donc avec des fonds débloqués, ça ne sera plus le cas parce que l'État va dire, bah là, non, maintenant, c'est devenu normal, en fait, ce genre de pluie.
Oui, mais si ça devient normal, ça sera peut-être assurable à ce moment-là. Donc, je pense que... Non, je plaisante, mais c'est vrai que ça peut être une question qu'on peut se poser.
Je dis ça, pardon, je vous coupe. Vous prenez, c'est que, justement, très, très récemment, là, un maire d'une commune des Alpes-Maritimes, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 jours, dans la vallée de la Roya, justement, très touché par les crues, il alertait sur le problème d'assurance, il ne trouve plus d'assureur pour sa commune. Et donc c'est un problème en tout cas déjà.
Le problème, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que la notion, tout à l'heure, lorsque nous parlions de la maison et du fonds Barnier, la notion d'assurance qui est impérative pour que le fonds Barnier puisse jouer, effectivement, ça peut poser des problèmes. Et pour effectivement avoir travaillé dans l'assurance, j'ai connu les inondations de 94 à Mende. Il y a beaucoup de personnes qui, ayant été touchées par des inondations, et dans le sud de la France également, sur Alès, sur d'autres endroits, se sont retrouvées sans possibilité de trouver un assureur. Donc là, ça pose d'énormes problèmes, effectivement. Donc la récurrence de l'événement peut effectivement avoir des répercussions sur la vie des habitants et de la population.
Vous, à la DT, vous travaillez là-dessus,
sur le sujet de l'adaptation?
Vous anticipez, oui.
Oui, complètement. Et c'est vrai que la question de la pluviométrie, ça a été très, très bien présenté. Il y a aussi la question du changement du sol et du couvert végétal. C'est que là aussi, avec le réchauffement climatique, la végétation va changer. La qualité du sol et la capacité d'absorption du sol va évoluer aussi. Donc, ce qui renforce encore plus la question du risque. Donc oui, on évoquait les plans de prévention des risques d'inondation. Mais ces plans-là doivent être révisés justement pour intégrer c'est cette nouvelle donne, le ruissellement, tous ces sujets-là, quoi.
Oui, pareil, une réaction là-dessus. Vous aussi, vous travaillez sur ces changements de sol et donc ce qui peut changer aussi pour vous au syndicat mixte des rivières?
Alors, pas directement. Par contre, on a des actions qu'on mène en lien avec les agriculteurs et les propriétaires forestiers pour essayer toujours, en fait, de réduire les écoulements, de limiter les ruissellements. Après, non, on n'a pas d'action spécifique. Enfin... Là, c'est un peu à l'opportunité. Et on a eu un gros feu, donc c'est pas sur la Lozère, enfin c'était à la frontière, à Mostuéjouls, qui est dans le Tarn. On fait partie du groupe de réflexion et on accompagne la commune sur comment limiter les ruissellements suite à ce feu, parce que quand il n'y a plus d'arbres, il y a encore plus de ruissellements. Donc voilà.
Effectivement, pour conclure, l'AMF, l'Association des maires de France, s'inquiète aussi de ce problème-là, hein, avec la création d'un groupe de travail sur la prévention des risques, un groupe de travail donc, voilà, c'est sur, et la gestion de crise, notamment, où Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la-Napoule, donc à côté de Cannes, et coprésident, et je ne sais pas si c'est des choses aussi, vous, récemment, il y a eu la réunion de l'AMF 48 sur Langogne, vous en parlez entre...
C'était à la Canourde. Bah, disons que non, on n'a pas abordé ce problème, bien que la Canourde ait été touchée pendant l'été, mais disons que c'était une assemblée générale qui était, je dirais, ordinaire, donc où on pouvait débattre entre collègues, mais ça n'a pas été forcément... Moi, je n'ai pas pu y rester trop longtemps, j'y suis allé, mais j'ai assisté juste au débat, et puis après, je n'ai pas pu rester. Mais ça n'a pas été un thème qui a été abordé, mais il est certain qu'à l'avenir, ça va être une préoccupation majeure de nombre de mes collègues maires.
Un mot avant de conclure, on a abordé les différents thèmes voulus, quelque chose à rajouter, non ? Bon, le silence...
Apparemment non. Non.
Donc voilà, c'est déjà la fin de cette émission Théma, consacrée aujourd'hui à la prévention des risques et des crues et inondations. Merci à nos invités d'avoir participé à l'émission. Donc Jade Bréchignac, chargée de mission inondation pour le syndicat mixte Tarn-Amont, Marc Chevrier, directeur adjoint de la DDT 48, et Gérard Pedrini, maire d'Ispagnac. Merci à vous trois. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Théma. Au revoir.
Avec votre aimable attention.
Dans quelle lampe allez-vous donc?
Avec votre aimable attention.